Bonjour Cossier Fouy.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous présenter donc ce dernier roman, publié aux éditions du Seuil, un roman qui vous a valu entre autres le prix des 5 continents. Et le revenant de Solo d'un revenant, c'est votre personnage principal, c'est ce narrateur qui revient dans son pays après 10 ans d'un massacre fratricide en fait. Et dans ce pays, on accueille ceux qui reviennent du Nord dans ces termes-là, bienvenue aux revenants. C'est quand même une drôle de façon d'accueillir les gens qui étaient en exil, est-ce qu'on peut les qualifier comme ça ?
Oui, oui, c'était des gens qui étaient en exil, on peut même parler de dispersion et qui reviennent. Il est vrai que il y a certains des rires étranges parfois dans les situations les plus dramatiques ou plutôt pas dans la situation mais après, c'est la situation post-traumatique. Enfin, tout le roman se déroule dans une situation post-traumatique, donc c'est après la guerre, donc il y a quelque chose de ça dans ce bienvenue aux revenants. C'est comme une sorte de théâtralisation du drame.
Mais de qualifier quelqu'un de revenant, ça donne à ce narrateur-là presque un statut fantomatique, en fait.
Oui, et on peut même dire qu'il n'a pas de corps physique, ou alors ce qui reste de son corps physique, c'est la voix.
D'ailleurs, c'est le seul qui n'a pas de nom dans votre roman.
Oui, c'est vrai, c'est le seul qui n'a pas de nom, parce que... est-ce qu'il y a une justification? Sans vouloir en inventer une, je crois que c'est lié au fait qu'il n'est qu'une voix. Là, dans le titre Solo, il y a une référence explicite à un genre musical ou un genre chorégraphique, mais qu'on exécute en solitaire. Là, c'est un genre musical, il n'est plus qu'une voix. Et la seule, c'est comme si c'est un être réduit dont tout le corps serait, dont toute la matérialité serait réduite à son corps sonore. Mm-hmm. On ne le voit pas. Mm-hmm. Mais en même temps, lui voit. Donc on voit à travers ses yeux. Voilà. Donc notre propre corps peut se substituer au corps du revenant.
Donc ce n'est pas simplement réduit à un réflexe qui serait mécanique finalement.
Non. Non, non, c'est une conscience, mais une conscience agissante, mais réduite à une voix. Oui.
Mais justement, il est réduit à une voix, il voit des choses que peut-être les gens qui ne sont pas restés au pays ne voient pas. Mmh. Justement, est-ce que ce ne serait pas lui le mieux placé pour avoir comme un regard concerné, mais une sorte de recul aussi sur ce pays-là?
Cette question est au cœur du roman et de son écriture. Je me suis demandé qui est ce personnage. Ce n'est pas un rescapé, parce qu'il a quitté le pays avant la guerre pour des raisons, voilà, les nécessités de la vie. Il allait chercher du travail dans le nord, la guerre éclate, la ville est coupée en deux. Le nord est préservé, là où il a vécu pendant 10 ans, a été préservé. Les massacres ont eu dans le sud, où il a laissé ses deux amis. Donc, il n'est pas victime. Il n'est pas rescapé. Mais en même temps, il est concerné. C'est le mot que j'avais prononcé. Donc, il fallait pour que le ton soit juste, qu'il soit à la bonne distance, qu'il ne prenne pas la place des rescapés dans sa parole, qu'il ne prenne pas la place des victimes, mais qu'il reste à sa place juste d'être concerné. Moi, ça m'a permis d'écrire le livre aussi, parce que moi, j'ai pas connu un massacre fratricide, mais je me sens concerné. Écrire, c'est dire que quelque chose qui s'est passé à des milliers de kilomètres de moi, j'en fais une affaire personnelle.
Mais justement, vous dites que vous êtes senti concerné par ça avant, j'imagine, d'écrire votre livre.
Oui.
Est-ce que après coup, aujourd'hui, vous avez écrit, il y a eu une période de publication, de rédaction et d'édition. Oui. Est-ce qu'on se sent encore concerné après
coup? Ah oui. Ah oui, c'est ça qui fait qu'on écrit un livre après un autre livre, après un autre livre, après un autre livre. Et en plus, moi, je n'écris que sur une chose, la même chose, de façon obsessionnelle. C'est tous les mécanismes d'enfermement, c'est tous les complots contre la joie, c'est toutes les castrations en gants blancs. Et donc, que ce soit dans une dictature ou dans une démocratie, on n'est pas sorti d'affaire.
Comment on peut inscrire votre roman dans l'histoire du Togo?
Alors, c'est difficile parce que j'ai pas pensé tout le temps au Togo en l'écrivant, mais il y a eu des souvenirs d'enfance, des images. On écrit, disons, le Togo pour moi c'est un stock d'images, de sensations. C'est, moi, je suis né, j'ai vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 27 ans, donc c'est là où j'ai mon magasin de, c'est là où j'ai trouvé de la matière, des couleurs quand je vais fabriquer un décor ou une ambiance dans la fiction. C'est, il est évident que c'est bien là. Mais après, il n'y a pas vraiment un lien historique très mécanique entre la fiction et l'histoire du Togo. Il y a quelques règlements de compte, comme quand à un passage je dis que à l'occasion d'une Coupe d'Afrique des Nations, le directeur de l'école a eu la bonne idée de baptiser chaque salle de classe des noms des pays africains participants, et que notre classe, qui avait la réputation selon le directeur d'être une classe où les cancres font la loi, a hérité du nom du Togo. Alors voilà, il y a quand même quelques liens historiques. Et je crois que la classe où les cancres font la loi, hélas, n'est pas loin d'être débaptisée, puisque les cancres continuent de faire la loi de père en fils.
Ouais.
C'est peut-être un lien justement avec le Togo et votre histoire. Et si on regarde aujourd'hui 50 ans d'indépendance, on en parle à fusion, on en parle souvent. Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que nous réserve l'avenir,
donc? Moi, je suis né en 62. Donc, je suis un enfant de l'indépendance. Je suis l'enfant de parents qui se sont battus pour l'indépendance et qui entretenait l'espoir que ces enfants que nous étions étaient partis sur
bonne base.
Voilà, sur de belles promesses. Moi, je suis témoin des 50 ans. C'est vrai qu'on est sorti de l'ère des dictateurs épouvantails en Afrique et grands clowns à l'extérieur, hein, les Dada, les Bokassa. Bon, ça fait, on est à l'ère des communicants, on est plutôt dans le genre dictateur en gants blancs, ou et puis même les mercenaires ont changé. Avant, on avait les Bob Denard, et puis là au Togo on a des mercenaires en col blanc. Non, hein, qui vont travailler à découper dans la constitution déjà fort fragile à chaque fois que c'est possible. Donc moi, les 50 ans me paraissent être, je ne crois pas qu'on puisse fêter quoi que ce soit, ce serait une mascarade. Attention, si c'est fêter les 50 ans de courage du peuple, si fêter 50 ans de la force d'imagination, si fêter 50 ans
de résistance,
mais aucune commémoration officielle, qu'ils aient honte et qu'ils se tairent.
Et ben, sur ces mots,
je pense qu'il n'y a plus rien à dire.
Je pense que tout est dit. Kossi Efoui, merci beaucoup d'être passé à notre micro.
Merci. C'est très chaleureux, votre émission. Spéciale dédicace aux auditeurs de Radio Tuki de la part de Kossi Efoui. D'esprit à esprit, confiance, amitié et tranquillité d'esprit. Merci.
Voilà, c'était Kossi Efoui qui vous faisait en fait, chers auditeurs, une dédicace pour les auditeurs donc de Radio Tuki. Alors, je vous le rappelle, si vous voulez nous contacter.